VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Conakry, 18h à N'Djamena. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, nouvelles attaques de Boko Haram contre deux villages dans le sud du Niger. Des sources sécuritaires parlent d'au moins 30 morts. Pour sa part, le Tchad a fini par réagir. L'armée du pays affirme avoir mené hier des frappes aériennes au Nigeria sur des positions des islamistes de Boko Haram en représailles au double attentat meurtrier commis lundi à N'Djamena. Jacques Aristide.
Les raids conduits en territoire nigérian ont détruit 6 bases de Boko Haram et causé dans ses rangs de nombreux dégâts humains et matériels, indique l'état-major de l'armée tchadienne dans un communiqué publié ce jeudi, et d'ajouter que les forces de défense et de sécurité du Tchad vont traquer sans merci ces terroristes sans foi ni loi pour qu'aucune goutte de sang tchadien versé ne reste impunie. Il s'agit donc de la réplique du Tchad aux attaques perpétrées contre le commissariat central et l'école de police de N'Djamena. Attentats qui ont fait au moins 33 morts et une centaine de blessés et qui n'ont pas encore été revendiqués mais immédiatement attribués à Boko Haram. Autre annonce par les autorités tchadiennes dans le sillage de ces attaques, le port du voile intégral et du chèche cachant le visage est interdit depuis hier, le gouvernement invoquant des raisons de sécurité, une mesure dont l'entrée en vigueur coïncide avec le début du Ramadan dans ce pays majoritairement musulman.
À Bujumbura, au moins 3 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une grenade jeudi après-midi dans le centre de la capitale burundaise. C'est ce qu'ont affirmé des témoins. Lancé par des inconnus, l'engin a atterri et explosé dans un chantier. Reprise du dialogue politique en Guinée aujourd'hui. L'opposition et le pouvoir se sont donné rendez-vous pour une nouvelle fois tenter de se mettre d'accord en vue des prochaines élections. Mais Nicolas Pineau, il y a peu d'espoir tant les dissensions sont grandes entre les deux partis.
Oui, la réunion a débuté à 14h, temps universel au Palais des Peuples. Elle réunit tous les acteurs de cette crise politique guinéenne qui n'en finit plus quasiment depuis l'élection d'Alpha Condé en 2010. Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition, a confirmé à VOA Afrique la présence des opposants et de la société civile à cette rencontre. Côté gouvernement, le ministre de la Justice est présent, ainsi que le secrétaire général de la présidence et des membres de la mouvance présidentielle, surtout le RPG, la CENI et la communauté internationale participent aussi. Quelles sont les chances de parvenir à un accord? Elles sont quasi nulles, puisque dès l'ouverture de la réunion, Aboubacar Sylla explique que l'opposition guinéenne va faire de l'annulation du chronogramme électoral une question préjudicielle. Cela signifie que si les différents acteurs ne se mettent pas d'accord d'entrée de jeu, les opposants quitteront la table des négociations. On rappelle que pour le moment, la commission électorale prévoit d'organiser l'élection présidentielle le 11 octobre prochain en Guinée, suivie des élections locales en 2016.
Le Libéria a lancé une vaste étude de 5 ans, faisant appel à plusieurs milliers de volontaires pour mieux cerner les effets à long terme du virus Ebola chez les survivants de l'épidémie. Quelques 1500 survivants et 6000 de leurs proches sont concernés par cette étude. 3 des 10 fonctionnaires du consulat tunisien de Tripoli, enlevés le 12 juin par une milice armée libyenne liée à Fajr Libya, ont été libérés. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la diplomatie tunisienne qui poursuit les négociations pour la libération des autres 2 détenus. Le président kényan a ordonné aujourd'hui à la Banque centrale de réglementer l'activité du secteur des entreprises de transfert de fonds vers la Somalie, un préalable à la reprise de leurs opérations suspendues depuis l'attaque de l'université de Garissa en avril dernier par les chebabs somaliens. L'attaque de Garissa avait fait 148 morts, dont 142 étudiants, le 2 avril dernier. Les autorités kényanes avaient dans la foulée ordonné le gel des comptes bancaires de 85 personnes ou entités soupçonnées de liens avec les chababs, dont les entreprises de transfert d'argent ainsi que des ONG, les empêchant de facto d'opérer. Cette mesure avait été décriée par la population et les ONG qui s'estimaient victimes d'une punition collective. Et puis les forces de sécurité somaliennes ont déjoué une attaque contre une conférence de 400 responsables régionaux aujourd'hui dans le centre de la Somalie. Elles ont tué 3 des 4 assaillants, des présumés islamistes Shabab. Le 4e s'est fait exploser.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Que signifie l'affaire Omar El-Béchir pour les relations entre les systèmes judiciaires et les pouvoirs en Afrique? Le gouvernement sud-africain a-t-il violé la constitution en laissant le président soudanais quitter son sol alors qu'Omar El-Béchir est recherché pour génocide par la CPI? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Le meurtrier présumé de 9 personnes abattues hier soir dans une église de la communauté noire de Charleston a été arrêté, selon la police. Le jeune homme blanc de 21 ans a été appréhendé à Shelby, en Caroline du Nord. Le suspect était resté pendant près d'une heure avec le groupe qui étudiait la Bible dans l'église avant de tirer. C'est ce qu'a précisé le chef de la police de Charleston, Gregory Mullen, lors d'une conférence de presse. Le président Barack Obama s'est exprimé lui aussi. Il dénonce des meurtres insensés et appelle à une meilleure réglementation et un meilleur contrôle des armes à feu. Le Vatican a publié une lettre du pape François disant que le réchauffement climatique est essentiellement causé par l'homme et que c'est un des plus graves problèmes d'aujourd'hui. Plus de détails avec Nathalie Barge.
L'encyclique de 191 pages publiée ce jeudi dit qu'un fort consensus scientifique indique que nous assistons actuellement à un réchauffement climatique inquiétant. L'humanité est appelée à reconnaître la nécessité d'un changement de mode de vie, de production et de consommation afin de lutter contre ce réchauffement ou au moins les causes humaines qui le produisent ou l'aggravent, peut-on lire dans la lettre du souverain pontife. Le pape Francis a également souligné l'importance de la lutte contre la pollution et la protection de l'approvisionnement en eau. Il appelle également à cesser l'utilisation intensive des combustibles fossiles, estimant que le système des crédits de carbone est totalement inefficace. L'encyclique est publiée avant sa visite en septembre aux États-Unis et une grande conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Paris plus tard cette année. Le document reflète les positions relativement progressistes prises par le pape d'origine argentine. Il a également appelé l'Église à devenir plus accueillante pour les homosexuels et à modérer les débats sur les questions controversées liées à l'avortement et au mariage homosexuel.
Bien sûr, ces positions sont considérées comme un changement majeur à l'écart des positions des prédécesseurs du pape François. Et ces déclarations ont bouleversé beaucoup de membres conservateurs de l'Église catholique qui comptent quelque 1,2 milliard de fidèles.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Début du mois saint du Ramadan aujourd'hui dans la majorité des pays musulmans, à l'exception du Pakistan où il commencera demain. À cette occasion, le président Barack Obama a salué tous ceux qui vont jeûner aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Le chef de l'exécutif américain s'est félicité à l'avance de pouvoir accueillir à la Maison-Blanche les représentants de la communauté musulmane des États-Unis pour un dîner d'iftar, la rupture du jeûne du Ramadan. Et le Ramadan qui a débuté dans la violence au Yémen, où le groupe État islamique a revendiqué une série d'attentats à la bombe anti-chiite, alors que la situation des civils s'aggrave de jour en jour, en particulier à Aden, dans le sud du pays. Au moins 8 civils ont été tués aujourd'hui par un tir de rebelles sur un quartier détenu par le régime syrien à Alep, où les bombardements des insurgés se sont intensifiés ces derniers jours, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Deuxième ville du pays, Alep est divisée depuis 2012 entre les rebelles et le régime. Le nombre de déplacés et de réfugiés suite aux multiples conflits dans le monde a atteint le niveau record de 60 millions de personnes en 2014, selon le rapport annuel du HCR, qui se déclare de plus en plus dépassé devant ce drame. Le HCR constate une accélération saisissante avec 59,5 millions de déracinés, dont plus de la moitié d'enfants à la fin 2014. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir Le Monde Aujourd'hui, présentée par Morgane Guiriec et Idrissa Sedoudia. Retrouvez-nous 24h sur 24 sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.